etc., mais à partir des territoires. C'est la fameuse idée des clusters. L'idée étant que la globalisation a mis en compétition les territoires et les régions et qu'il faut favoriser leur attractiveness, comme on dit. Bon, voilà, je passe. Là aussi, le propre des clusters, enfin le propre des territoires, c'est que on les a amenés à se constituer sur des bases territoriales et à soumettre des projets, et c'est ces projets qui sont ensuite financés. Bon, je passe. Après, il y a eu une série de choses qui ont été faites pour les petites et moyennes entreprises, pour les très petites entreprises et pour les small innovative firms, pour les petites firmes innovantes. Donc ça a été la réforme de l'OCE, l'installation des incubateurs publics et l'installation du capital risque pour les nouvelles entreprises. Vous comprenez pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce qu'on ne peut pas regarder que le CIR, il faut regarder l'ensemble de ce qui a été fait. Et l'ensemble de ce qui a été fait, c'est un changement radical de modèle. Et comment dire, pour la France, c'est particulièrement difficile parce que c'est un modèle qui n'a rien à voir avec le modèle précédent. C'est un modèle dans lequel on met au centre l'entreprise, le territoire, la déverticalisation, l'horizontalisation, là où il y avait des grands projets, de la filière et des laboratoires publics. Bon, voilà. Alors, ce que je pense, personnellement, je passe, hein, j'ai mis un petit truc qui était l'agence pour AI, c'était... je me souviens plus
l'innovation. Ce que vous
oui, pour l'innovation, je ne sais pas quoi. Ça, c'était la nostalgie des grands projets.
Hein.
Ça avait été conçu à un moment, et puis finalement, ça n'a été pas financé, et ça a quasiment disparu. Mais je passe. C'est pour dire que ça continue. L'idée des grands projets, la France, en France, c'est toujours vivant. Bon, je conclue. Je dis que, voilà, nous avons atteint un mouvement, un point tournant dans l'histoire du système français. Nous avons donc une série de nouveaux instruments basés sur de nouveaux principes. Les nouveaux principes, ils n'ont rien à voir avec ce qu'étaient les principes traditionnels en France. C'est l'attractivité, l'interaction et la connectivité. Vous savez, c'est les fameux modèles à hélice, etc., qu'on trouve dans la littérature. Des modèles bottom-up, ça doit partir de l'entreprise. Et la philosophie implicite, je le répète, c'est que l'innovation ne peut être qu'émergente, driven, tirée par les firmes, et non plus state managed, c'est-à-dire piloté par la puissance publique. Alors, mon dernier mot, si je peux dire, excusez-moi, j'y viens. Voilà, mon dernier mot, c'est pour dire que on est en pleine crise du modèle d'innovation à la française, ce nouveau modèle, le nouveau modèle qu'on essaye d'installer, il correspond à rien dans la tradition française. C'est complètement nouveau, et que de plus, alors là-dessus, je serai d'accord avec ce qui a été dit. Ce nouveau modèle, il est conçu de fait, il bénéficie pour l'essentiel à des très grandes firmes, les firmes du CAC 40. Qui, elles, compte tenu des privatisations, etc., sont totalement déterritorialisées, sont des firmes globales, sont des firmes qui n'ont que faire du développement de l'innovation et du renforcement de l'innovation en France, parce que c'est des firmes globales. Et donc, on se trouve, avec les deux tares de notre ancien modèle, à savoir une concentration de la recherche dans les grandes firmes, mais au moins Dans l'ancien modèle, c'était des grandes firmes nationales, si je peux dire, et territorialisées. Donc on a toujours ça, sauf que maintenant c'est déterritorialisé, avec en plus carte blanche donnée à ces firmes-là, qui ont comme souci dernier le développement de l'emploi scientifique ou de l'innovation sur les territoires français. Voilà. Donc vous voyez que ma critique, elle est, je pense, très sévère, mais elle n'est pas forcément de même nature que celle qui a été entendue ici. Voilà. Je vous remercie.
Merci. Je propose qu'on prenne peut-être quelques interventions à rebours, la Bruno Chaudret, qu'on arrête vers 13h pour reprendre avec un petit peu de retard, mais vers 2h15, 2h30.
Donc merci pour cette intervention qui était très intéressante et où il y a plein de points avec lesquels je suis entièrement d'accord, en particulier sur le fait de changement de paradigme sur l'innovation. C'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas la peine de reprendre des arguments de sarkozystes pour démolir le CNRS. Sur l'idée, ça a été un des premiers arguments qui a été avancé, c'est que le CNRS faisait tout, s'auto-évaluait, et que, voilà, et donc que c'était un organisme qui tournait en rond. Si on regarde la composition de l'agence d'évaluation, hein, de l'ARS, des comités d'évaluation, ou de ceux qui préexistaient au moment de l'évaluation par le comité national, on voit que ce sont les mêmes personnes. Donc il n'y a pas eu de changement entre l'ARS et le comité national. Et deuxième chose, non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai les preuves, hein, donc je pourrais les sortir. La deuxième chose, c'est que le comité national n'est pas une institution du CNRS. Il est élu parmi tout le personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc il a tout à fait la légitimité d'évaluer les structures de recherche françaises. Qu'on remette sur le tapis ce vieux débat parce qu'on n'a pas réussi à complètement faire la peau au CNRS me paraît être un combat d'arrière-garde. Et je vois pas ce que ça vient faire dans la démonstration par ailleurs intéressante et brillante que vous avez faite.
Gentiment, mais je suis mort par ce corporatisme débile.
Bon, il y a des points de vue contradictoires là, encore une ou deux interventions, s'il vous plaît. On laisse Monsieur Correa répondre, Benjamin Correa répondre. Et après, il faut tenir les délais, ok? Très rapidement, s'il te plaît.
Oui, oui.
Et bon, tu sais très bien que toutes ces questions de pôle de compétitivité et tout ça sont beaucoup plus vieilles que et c'est toujours recyclé. Hein. Bon, voilà. La seule chose qui a changé, c'est qu'alors qu'on avait quand même une avance dans le modèle précédent, par exemple sur les Britanniques, maintenant on s'est mis complètement à la remorque de la vague libérale qui était justement celle qu'on avait réussi à éviter. Or, attention, le néolibéralisme est la casse de tout ce qui pouvait avoir un aspect tant soit peu socialiste ou public. Elle a fait des dégâts partout. Donc, je suis d'accord pour ne pas s'apesantir sur les trucs du passé. Ensuite, effectivement, il y a des tas de choses nouvelles qui sont en cours et qui sont largement induites par le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il faut tous savoir maîtriser. Et moi, ma tare, c'est celle des littéraires de formation. C'est vrai que je ne suis pas véloce dans ces affaires-là et je reconnais que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument réussir à améliorer en France. Mais, projetons-nous vers l'avenir, d'accord, mais essayons aussi de ne pas nous mettre à la remorque de ceux qui nous ont entraînés dans le... Enfin, parce que le système, le bout de cet exemple-là, c'est le Qatar et l'esclavagisme, hein, voilà.
Bon, très rapidement, Brigitte veut poser une question, puis après François Métivier, et on laisse...
Moi je suis d'accord sur le changement de paradigme, mais justement je crois qu'une de nos difficultés c'est justement de ne pas suffisamment l'avoir vu, anticipé. Mais alors ma question ces réorganisations ont été mises en œuvre pour capter des champs de marché à haute profitabilité. Bon. Donc moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette organisation nouvelle, qui maintenant fait plus que a plus que commencé, est en capacité de répondre aux défis qui sont posés à nos sociétés en ce début de troisième millénaire, et est-ce que l'on dispose de moyens de résistance, voire de reconquête pour réorienter justement toute l'activité humaine, toute l'intelligence humaine vers la réponse à ses besoins et, et aux défis que l'on a.
Je voudrais juste dire un mot, j'ai le micro là, non mais par rapport à ce qui vient d'être dit, autant je suis d'accord sur un certain nombre de la pertinence de la démonstration concernant les grandes entreprises et leur comportement vis-à-vis du CIR et autres, et puis par rapport à ce changement de paradigme qui remet l'entreprise au centre ou les sachances et faisant son centré autour de l'entreprise. Mais je voulais simplement dire que quand même l'AERS, l'ANR, etc., je le rappelle, c'est nous-mêmes qui l'avons proposé. Hein, les assises de la recherche, suite à Sauvons la recherche, ont fait ces propositions-là. Donc on n'est pas centré sur... Il y avait suite à cette... quand je dis nous, je parle de moi-même. Hein. Si d'autres sont atterrés par cela, ça les regarde. Je dis simplement que on est évalué aussi par nos collègues quand on publie nos articles, etc. Donc je trouve quand même un peu dommage que la qualité de la démonstration soit un peu déviée en remettant en cause un certain nombre de dispositifs qui sont d'ailleurs les bienvenus. Le fait de pouvoir avoir accès à des programmes blancs sur l'ANR, c'est effectivement une bonne chose. Mais c'est la dérive de l'ANR la décroissance des financements récurrents dans les laboratoires qui pose problème. Donc voilà ce qu'il faudrait aussi mettre un petit peu en avant. Et le dernier point, c'est que ces agences, enfin, etc., sont détournées de leurs fonctions par ce tournant libéral que les économistes atterrés devraient peut-être dénoncer un peu plus.
Bien.
Juste une remarque et deux questions. C'est marrant parce que ce que vous dites, en fait, ça n'est pas vous qui portez ces propos, mais c'est très intéressant. D'abord, parce qu'il y a un certain nombre de lieux communs dans ce que vous dites, dans ce que vous rapportez. Le premier lieu commun, c'est la particularité des instituts français. Oserais-je rappeler qu'en Allemagne, les Max Planck Institute font ce qu'ils veulent, les Helmholtz font ce qu'ils veulent, ils sont largement plus riches que le CNRS, ils ne demandent de compte à personne, et donc le CNRS n'est pas une institution unique au monde. Et donc, ça, déjà, c'est un premier lieu commun. Le deuxième lieu commun, c'est que c'est toujours la même histoire. Vous dites qu'on change de paradigme, et c'est très intéressant, mais vous dites maintenant, c'est l'entreprise qui est le générateur de l'innovation émergent, process driven by market, qui l'a jamais démontré. Ma question, c'est qui a déjà démontré? C'est un postulat de départ. Qui est-ce qui l'a démontré?
Vous n'avez pas remarqué
c'est une question que je vous pose parce que qu'est-ce que vous pensez? C'est une question que je vous pose par rapport à ça, et notamment parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, il y a un certain nombre d'articles qui apparaissent, comme par exemple les écrits de Mariana Mazzucato ou d'un certain nombre de personnes qui disent que en fait l'innovation, elle est essentiellement liée à toutes les grandes découvertes ont été faites par des recherches d'État, même aux États-Unis. Et que l'essentiel de l'innovation, ça n'est simplement que de la reprise de recherche d'État par des entreprises. Et donc, c'est pas exactement. Si on accepte ce point de vue-là, on n'est plus du tout dans une logique où l'innovation, ce sont les entreprises qui la font.
Allez, une réponse, et puis après.
Ouais, ouais.
Moi, je propose que le débat continue cet après-midi, s'il vous plaît.
La réponse, je vais faire en deux morceaux, je vais dire par rapport au passé et puis surtout par rapport à l'avenir. Alors, par rapport au passé, par rapport à ce qui a été dit, je maintiens absolument évidemment tout ce que j'ai dit. Il faudra simplement avoir le temps d'en discuter davantage. Bon, de toute façon, on ne va pas revenir à l'ancien modèle, là on perd son temps. Hein. Bon, donc, tournons-nous vers l'avenir. Mais si vous voulez, ce n'est pas du tout pour rien que je dis je suis à la fois universitaire et CNRS. Je sais de quoi je parle. D'accord ? J'ai dirigé une unité. Bien. Mais je passe. L'avenir. Juste quand même pour dire, bien sûr, on n'a jamais démontré que c'est l'entreprise seule qui est capable de faire de l'innovation, comme je pense que ça serait une erreur d'imaginer que toutes les innovations sont state-driven.
Le truc, c'est de trouver la bonne articulation entre les deux. Et un de nos grands problèmes en France, d'ailleurs, ce qui est insuffisamment dit, c'est que les entreprises investissent extrêmement peu en recherche-développement, y compris celles du CAC 40. Par rapport aux entreprises allemandes, japonaises, suédoises, américaines, etc., on est en bas du panier. Hein. Donc, ce qui manque, ce n'est pas de la recherche publique ici. Ce qui manque, c'est de la recherche privée. Bien. Alors maintenant, par rapport à l'avenir, parce que le modèle qu'on est en train d'essayer de nous imposer, le modèle néolibéral, il ne marche pas. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, dans quel état nous sommes. Hein. Pas seulement en emploi scientifique, mais en emploi tout court, hein, en récession, etc. Bien. Donc, la question, c'est vers où on va? Nous, on a une hypothèse, hein, aux économistes atterrés. On a une hypothèse. Et l'hypothèse, c'est que ce vers quoi il faut aller, l'instrument de restructuration, hein, de notre appareil de recherche, comme de beaucoup de choses, c'est la transition écologique. Pourquoi ? C'est évident que c'est le défi de la génération. Premièrement, c'est évident, deuxièmement, que l'industrie privée ne le fera pas. Qu'est-ce qu'elle fait, l'industrie privée, hein, sur la transition écologique ? Elle fait des gaz de schiste, c'est-à-dire qu'elle rajoute de la fracturation hydraulique à du CO2. Bon, donc, je veux dire, c'est pas eux qui vont le faire. Ça, on le sait. Donc, il faut de l'intervention publique. Troisièmement, c'est un domaine qui est absolument transversal. C'est-à-dire que ça va depuis de la recherche focalisée sur les énergies alternatives, etc., et qui sont nombreuses. Hein. Ça va de l'éolien en mer au solaire, etc., eh bien, jusqu'à des opérations tout à fait transversales. La rénovation thermique, c'est 40% de l'économie d'énergie. Et c'est rendre de l'argent aux Français, parce que ça va diminuer leur facture énergétique. Ça touche des questions aussi centrales que l'organisation de la mobilité, des transports en commun, etc. Bien. Donc, ce que nous pensons, nous avons déjà écrit des choses là-dessus, hein, dans nos manifestes, et nous sommes en train de préparer d'autres choses là-dessus, c'est qu'il faut lancer un nouveau grand programme de la transition écologique. Et ce nouveau grand programme de la transition écologique sera effectivement l'occasion de refinaliser... Comment ? Bien sûr, mais bien sûr. Mais j'ai déjà dit, mais il ne va pas se faire sans Veolia. Hein, faut pas rêver. Bien. Mais j'ai déjà dit que en matière de transition écologique, ce que fait l'industrie privée, pour l'essentiel, c'est du gaz de schiste. Donc vous voyez. Bon. Donc voilà. Donc si vous voulez, on pense qu'il est possible de faire un nouveau type de grand programme, pas à l'ancienne, c'est-à-dire un grand programme dans lequel l'initiative locale est extrêmement importante. On ne va pas faire la même chose en Languedoc-Roussillon et dans le Nord Pas-de-Calais, hein, dans lequel on va utiliser une pléiade d'instruments finalisés pour consommer moins de métaux rares dans les plaques d'énergie solaire, mais où on va aussi repenser le bruit des éoliennes. Bon, bref. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais là, il nous semble que la tradition française peut à nouveau s'exprimer. Le savoir-faire français consistant à faire des grands programmes sur l'avenir. En plus, la transition écologique, on ne va pas inventer la Lune. On le sait que c'est l'échéance de demain. Et ça peut être l'occasion, je l'espère, de réconcilier les grands organismes de recherche avec des projets financés sur des thèmes et de redonner du souffle à l'économie française. Voilà, je vous remercie.
Bien, écoutez, je vous propose pour les journalistes et qui sont présents et puis les intervenants de se retrouver au niveau de la sorte de l'entrée, là il y a une salle qui est prévue. On se retrouve, comme on a pris une petite demi-heure de retard, vers 14h15, hein, en essayant de...